Conseil pour un cadavre.
Plus de cervelle dans la tête, plus de cœur dans la poitrine, ni d'entrailles dans le ventre. Un roi creux. Les embaumeurs la veille avaient terminé leur travail sur le cadavre de Charles IV. Mais cela faisait-il grande différence avec ce que ce faible, indifférent, inactif monarque avait été durant sa vie? Enfant attardé que sa mère appelait Loison, mari trompé, père malheureux vainement entêté à travers trois mariages à assurer sa succession, souverain constamment gouverné d'abord par un oncle puis par des cousins, il n'avait servi à rien d'autre qu'au logement du principe royal. Il y servait encore. Au bout de la grande salle à piliers du château de Vincennes, reposait raide sur un lit d'apparat sa dépouille habillée de la tunique azurée, du manteau fleur-de-lysée, et la tête encastrée dans la couronne. Les pairs et les barons réunis à l'autre extrémité voyaient briller, éclairés par les buissons de cierges, les pieds bottés de toile d'or. Charles IV allait présider son dernier conseil, dit « conseil dans la chambre du roi », puisqu'il était censé gouverner encore. Son règne ne serait officiellement terminé que le lendemain, à l'instant où son corps descendrait dans la tombe à Saint-Denis. Robert d'Artois avait pris l'évêque anglais sous son aile, tandis qu'on attendait les retardataires. « En combien de temps êtes-vous venu ?»«
12 jours depuis York. Vous n'avez pas traîné à chanter messe en route, messire évêque. Un vrai train de chevaucheur. Votre jeune roi a-t-il eu de joyeuses noces ?»«
Je le pense. Je n'ai pu y prendre part, j'étais déjà sur mon chemin, » répondit l'évêque Orleton. « Et Lord Mortimer était-il en bonne santé ?»«
Grand ami, Lord Mortimer, grand ami, et qui parlait souvent... » au temps où il était réfugié à Paris de Monseigneur Orleton. Il m'a conté comment vous le fit évader de la tour de Londres. Pour ma part, je l'ai accueilli en France, et je lui ai donné les moyens de s'en retourner un peu plus armé qu'il n'était arrivé. Ainsi, nous avons fait chacun la moitié de la besogne.
Et la reine Isabelle? Ah, la chère cousine, toujours d'aussi grande beauté. Robert ainsi amusait le temps pour empêcher Orleton de se mêler aux autres groupes, d'aller parler au comte de Hainaut ou au comte de Flandre. Il connaissait Orleton de réputation et s'en méfiait. N'était-ce pas l'homme que la cour de Westminster utilisait pour ses ambassades auprès du Saint-Siège? Et l'auteur à ce qu'on disait de la fameuse lettre à double sens « Eduardum occidere nolite bonum est » dont Isabelle et Mortimer s'étaient servis pour ordonner l'assassinat d'Édouard II? Alors que les prélats français avaient tous coiffé leur mitre, Orleton portait simplement son bonnet de voyage, en soie violette, à oreillettes fourrées d'hermine. Robert nota ce détail avec satisfaction, cela retirerait de l'autorité à l'évêque anglais quand il prendrait la parole.
« C'est Monseigneur Philippe de Valois qui va être régent, » murmura-t-il à Orleton, comme s'il confiait un secret à un ami.
L'autre ne répondit pas. Enfin, la dernière personne attendue pour que le conseil fût au complet entra. C'était la comtesse Mao d'Artois, seule femme convoquée à cette assemblée. Elle avait vieilli, Mao. Ses pas semblaient aller avec peine le poids de son corps massif. Elle s'appuyait sur une canne. Son visage était rouge sombre sous les cheveux tout blancs. Elle adressa de vagues saluts à la ronde, alla asperger le mort et vint s'asseoir lourdement à côté du duc de Bourgogne. On l'entendait haleter. L'archevêque primat Guillaume de Trie se leva, se retourna d'abord vers le cadavre du souverain, fit le signe de croix, lentement, puis demeura un moment en méditation, les yeux vers les voûtes, comme s'il demandait l'inspiration divine. Les chuchotements s'étaient arrêtés.
« Mais, noble seigneur, commença-t-il, quand la succession naturelle fait défaut à la dévolution du pouvoir royal, celui-ci retourne à sa source, qui est dans le consentement des pairs. Telle est la volonté de Dieu et de la Sainte Église, laquelle en fournit l'exemple par l'élection de son suprême pontife. »
Il parlait bien, Monseigneur de Trie, avec une belle éloquence de sermon. Les pairs et barons ici conviés allaient avoir à décider de l'attribution du pouvoir temporel dans le royaume de France, d'abord pour l'exercice de la régence et ensuite, car sagesse veut le prévoir, pour l'exercice de la royauté même, dans le cas où la très noble dame la reine faillirait à donner un fils. Le meilleur d'entre les égaux, primus inter pares, tel était celui qu'il convenait de désigner, et le plus proche aussi de la couronne par le sang.
N'était-ce pas de comparables circonstances qui avaient conduit autrefois les pères barons et les pères évêques à remettre le sceptre au plus sage et au plus fort d'entre eux, le duc de France et comte de Paris Hugues Capet, fondateur de la glorieuse dynastie? Notre défunt suzerain, pour ce jour encore auprès de nous, continua l'archevêque en inclinant légèrement sa mitre vers le lit, a voulu nous éclairer en nous recommandant à notre choix, par testament, son plus proche cousin, prince très chrétien et très vaillant, digne en tout de nous gouverner et conduire, Monseigneur Philippe, comte de Valois, d'Anjou et du Maine. » Le prince très vaillant et très chrétien, les oreilles bourdonnantes d'émotion, ne savait quelle attitude prendre. Baisser son grand nez d'un air modeste, c'eût été montrer qu'il doutait de lui-même et de son droit à régner. Se redresser d'un air arrogant et orgueilleux eût pu indisposer les pères. Il choisit de demeurer figé, les traits immobiles, le regard fixé sur les bottes dorées du cadavre. « Que chacun se recueille en sa conscience, » acheva l'archevêque de Reims, « et exprime son conseil pour le bien de tous. » Monseigneur Adam Orleton était déjà debout.